Bonjour à tous. Alors effectivement, dimanche après dimanche, nous nous intéressons aux dons de l'Esprit. Jésus a eu cette parole un peu étonnante. Il a dit à ses disciples qu'il leur était profitable qu'ils partent parce qu'il enverrait le Saint-Esprit. Il enverrait l'Esprit et c'est grâce à l'Esprit, parce que l'Esprit les accompagnera, il sera avec eux, mais il agira aussi en eux, qu'ils pourront accomplir des œuvres extraordinaires. C'est la promesse de Jésus, c'est la promesse de celui qui a fait en sorte que nous puissions avoir cet accès direct à Dieu, parce que en mourant à la croix, il a pris nos péchés, et tout ce qui nous condamnait aux yeux de Dieu, tout ça s'évanouit, tout ça disparaît. Et le fait que nous ayons cette possibilité de communier, d'avoir cette relation directe avec Dieu, fait que nous pouvons recevoir son esprit. Et les dons spirituels, ils ont ceci d'extraordinaire qu'ils montrent que Dieu est vivant. Ils ont ceci d'extraordinaire qu'ils montrent que Dieu parle aujourd'hui, que Dieu agit aujourd'hui. Et peut-être que vous vous souvenez que lorsque nous avons eu cette introduction générale au don de l'Esprit, il y a quelques semaines en arrière, je vous avais dit que il y a des croyants qui croient en la parole, il y a des croyants qui sont nés de nouveau, mais qui estiment que les dons spirituels, les dons de l'Esprit n'étaient valables qu'au début de l'histoire de l'Église, que c'était nécessaire pour impulser ce projet extraordinaire qu'était l'Église, mais qu'aujourd'hui, ils ne sont plus d'actualité. Alors, pour pouvoir voir les dons de l'Esprit se manifester, il faut y croire. Il faut évidemment croire que c'est une réalité pour nous aujourd'hui. Et cet enseignement que nous avons ensemble est important. Parce que si nous n'y croyons pas, nous ne verrons pas ces choses. Mais par contre, si nous plaçons notre foi dans la parole de Dieu, et si nous nous inscrivons vraiment dans cette vision des choses, dans cette perspective que ces choses sont toujours vraies pour nous aujourd'hui, alors là, nous les verrons se manifester, bien entendu. Il est question des dons de l'Esprit dans la première lettre aux Corinthiens. Vous avez une liste qui est dressée par l'apôtre Paul au chapitre 12, entre le verset 4 et le verset 11. On ne va pas relire toute cette liste. Mais quand nous la parcourons, nous voyons qu'au verset 10, il est question du don de prophétie. Et ce que nous allons faire ce matin pour pouvoir examiner ce qu'est le don de prophétie, c'est de retourner dans le chapitre 14 de cette même lettre, première lettre aux Corinthiens, parce que c'est dans cette partie de sa lettre que Paul parle le plus du parler en langue et de l'interprétation des langues, mais c'est là aussi qu'il parle le plus du don de prophétie. Ce qui fait que je pense vraiment que ce que nous allons partager ce matin va être complémentaire de ce que Laurent a apporté il y a 15 jours maintenant, en parlant du parler en langue et de l'interprétation des langues. Parce que quand on lit l'apôtre Paul, dans ce chapitre en particulier, on a l'impression que la prophétie joue le même rôle que le don d'interprétation des langues, ça semble similaire. Alors on va revoir ça un petit peu plus dans le détail et parcourir ce chapitre 14 de 1 Corinthiens. Et je voudrais voir d'abord avec vous dans une première partie, quel est le don de prophétie? Quelle est la définition? Comment pourrions-nous définir le don de prophétie? Vous avez toute une liste, une famille de mots, que prophète, prophétie, prophétiser, qui est le verbe correspondant, tout ça, ça vient du mot grec « prophémie ». Et quand on décompose ce mot grec, c'est celui qui est utilisé dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens 14 notamment, puisque le Nouveau Testament a été rédigé dans cette langue, dans le grec. Quand on décompose ce mot, vous voyez qu'il y a deux syllabes, pro, qui veut dire pour. C'est vraiment l'idée de faire quelque chose à la place de, ou au lieu de. Et phémie, c'est parler. Donc littéralement, prophémie, prophétiser, c'est parler pour quelqu'un, parler à la place de quelqu'un. En d'autres termes, ça signifie être le porte-parole de quelqu'un. Le prophète, c'est une personne qui parle pour une autre. Et vous avez d'ailleurs une belle illustration de cela dans le livre de l'Exode. Alors là, c'est vraiment très éclairant. Mais vous savez que lorsque Moïse a été appelé par Dieu, il ne voulait pas y aller. Dieu avait appelé Moïse pour qu'il puisse prendre la tête du peuple d'Israël qui était en esclavage dans le pays d'Égypte. Et Moïse dit non, je sais pas bien parler, je bafouille. Et alors Dieu va lui dire, c'est ce que nous lisons en Exode 7, il va lui envoyer son frère Aaron pour l'aider. Et il est dit au verset 1, l'Éternel dit à Moïse, regarde, je te fais Dieu pour le Pharaon et ton frère Aaron te servira de prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai et ton frère Aaron le répétera au Pharaon pour qu'il laisse partir les Israélites de son pays. Donc Dieu fait d'Aaron le prophète de Moïse, c'est-à-dire le porte-parole de Moïse. Et il y a vraiment cette idée dans la prophétie d'être le porte-parole, évidemment, de Dieu.
La prophétie, dans le cadre chrétien, signifie que celui qui exerce ce don est le porte-parole de Dieu. Et Paul nous renseigne aussi sur ce qui caractérise cette pensée communiquée par le Saint-Esprit. La prophétie, elle est présentée par Paul, toujours dans 1 Corinthiens 14, comme une révélation. On le trouve à deux endroits, au verset 6 du chapitre 14, où il dit « Supposez, frères, que je vienne chez vous et que je m'exprime exclusivement en langue, sans vous apporter aucune révélation, aucune connaissance, aucune prophétie, aucun enseignement. Quel profit tireriez-vous de ma présence ?» Donc on a vu tout ça avec Laurent, ce que cela signifiait, mais j'aurais juste attiré votre attention sur les parallèles qu'à cet endroit, Paul est en train de faire. Donc j'ai mis dans des couleurs différentes pour que vous voyez les correspondances. Il parle de révélation et de prophétie, de connaissance et d'enseignement. Et il est en train de faire un parallèle, en fait. C'est une manière de dire qu'une révélation se manifeste par la prophétie et que la connaissance se manifeste par l'enseignement. Donc, ce qui est propre à la prophétie, c'est justement qu'il va y avoir une part de révélation. Si nous sommes les porte-parole de Dieu au moment où nous prophétisons, ça veut dire que Dieu veut révéler quelque chose. Il veut communiquer quelque chose qui n'est pas compréhensible immédiatement. Où il faut que ce soit Dieu qui nous le révèle, qui nous le donne, et on va se faire porteur de cela. Vous voyez que le mot qui est utilisé, c'est apocalypsis, et j'imagine que c'est familier à votre oreille, puisque ça a donné le mot français apocalypse, qui veut dire révélation. Et on retrouve cette idée dans les versets 29 et 30, lorsque Paul dit « Quant aux prophètes, que deux ou trois prennent la parole et que les autres jugent ce qu'ils disent ». Si un autre qui est assis reçoit une révélation, donc c'est le verbe apocalypto qui correspond au mot apocalypsis, pendant qu'un autre parle, celui qui a la parole doit se taire. Ainsi, vous pouvez tous prophétiser à tour de rôle afin que tous soient instruits et exhortés. On retrouve cette même idée. La prophétie concerne quelque chose qui est caché et qui est porté à notre connaissance par le Saint-Esprit. C'est pas seulement le fruit de l'étude, c'est pas seulement le fruit de la réflexion, mais il y a cette dimension de révélation. Elle est aussi partagée à un moment donné, puisqu'il est dit que le premier se taise. Donc ça veut dire que là, à un moment donné, une parole va être partagée. Le délai semble court entre le moment où la révélation est communiquée par le Saint-Esprit et le moment où la personne partage la pensée qu'il a reçue. Et c'est cette façon de faire qui est décrite par Paul dans le cadre du culte notamment. Et ça souligne qu'il y a une certaine spontanéité du don de l'Esprit, qui est lié à l'inspiration du Saint-Esprit. Donc la définition que je vous propose, c'est la suivante. La prophétie est la communication verbale dans le cadre de l'Église, alors prenez l'Église au sens large, dans le cadre de la communauté des croyants que nous formons les uns avec les autres. La prophétie est la communication verbale dans le cadre de l'Église d'une révélation inspirée par le Saint-Esprit. Et je voudrais voir avec vous certains points qui me paraissent importants lorsque nous devenons les porte-paroles de Dieu. C'est pas rien quand même. Donc si nous sommes les porte-paroles de Dieu, il faut que nous puissions faire cela le mieux possible, le plus proche de ce que nous enseigne la parole. Et le deuxième point que je voudrais voir avec vous, c'est que la prophétie est toujours en accord avec la doctrine. Lorsque nous lisons la Bible, on voit qu'il y a beaucoup de prophéties. Les prophéties sont nombreuses dans les Écritures. Il y a les prophètes de l'Ancien Testament, notamment, qui s'adressent au peuple d'Israël. Et c'est vrai, Dieu appelait certains hommes et certaines femmes pour qu'ils apportent un message de sa part. Tout le monde n'était pas prophète dans le peuple d'Israël. Même, souvenez-vous, si Moïse le souhaitait. Moïse voulait que tout le peuple d'Israël puisse avoir la possibilité de prophétiser. Mais le Saint-Esprit qualifiait certaines personnes seulement. Dans la Nouvelle Alliance, et là je répète un peu ce que j'ai dit dans l'introduction, les choses sont différentes parce que dans la Nouvelle Alliance, le don du Saint-Esprit aux croyants, le don du Saint-Esprit est pour tout le monde. Ça avait été annoncé par le prophète Joël, et c'est cette prophétie qui est citée par Pierre le jour de la Pentecôte. On la lit dans Actes 2, du verset 16 au verset 18, où Pierre cite la prophétie de Joël. Et il dit, le Seigneur a dit qu'il répandrait son esprit sur toute chair. Donc sur tout le monde, vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes, je répandrai de mon esprit en ces jours-là et ils prophétiseront. La venue de l'esprit se caractérise par le fait de prophétiser. Et voyez que ça concerne absolument tout le monde, quelle que soit son origine sociale, quel que soit son sexe, quelle que soit il y a pas de distinction. Le Saint-Esprit, l'effusion de l'Esprit est donnée à tout le monde et elle est caractérisée par la capacité qui est donnée aux croyants de prophétiser. Donc, le souhait qui avait été manifesté, qui avait été exprimé par Moïse à un moment donné, il se réalise le jour de la Pentecôte. À partir de la Pentecôte, il y a 2000 ans, maintenant, nous avons tous la capacité, parce que nous avons tous reçu le Saint-Esprit, nous avons la capacité de prophétiser. Et le Saint-Esprit traduit là, nous communique des choses que nous pouvons recevoir. Lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, tous les croyants deviennent des porte-paroles de Dieu. Nous avons tous cette possibilité. Et ça se traduit par des paroles de révélation que nous pouvons nous communiquer les uns aux autres pour nous encourager. Alors c'est vrai que ça peut se faire pendant le culte, mais vous pouvez être porteur d'une parole prophétique les uns pour les autres. Si vraiment vous avez fait cette expérience du baptême dans cet esprit, de la présence de l'esprit. Il y a quelques temps de cela, on avait une amie qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et donc elle essayait d'avoir un enfant avec son mari, et ça durait. Elle faisait toutes sortes de régimes et employait toutes sortes de méthodes, mais elle n'enfantait pas. Et puis elle a une de ses amies qui est venue lui rendre visite et elle lui dit « C'est curieux, mais cette semaine, j'ai rêvé de toi et je t'ai vu, t'étais enceinte. » Mais c'est pas du tout quelque chose, je pense, qui vient de Dieu, elle lui dit. Elle prend un peu ses gardes. Mais cette amie, elle qui j'étais à un moment où elle commençait à se poser des questions, ça a ranimé sa foi. Et ce qui s'est passé, c'est que quelques semaines après, elle est tombée enceinte. Donc, cette parole, elle était prophétique. Même si la personne qui la portait, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle aussi par des rêves, par des songes. Et donc, même si la personne qui avait partagé cette parole n'en était pas vraiment consciente, là, il y a une parole qui était prophétique. Prophétiser ne veut pas forcément dire exercer un ministère prophétique. Il y a une petite différence à faire à ce niveau-là, et c'est bien de pouvoir le préciser aussi. C'est que prophète, c'est un ministère de la parole, comme docteur, comme pasteur, comme évangéliste. Et on en a eu un exemple d'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, on voit que dans le ministère de Jerry Vaughan, il y a vraiment cette dimension prophétique. Donc tous ceux qui exercent le don spirituel de la prophétie ne sont pas forcément tous appelés à devenir des prédicateurs ou des prédicatrices. Par contre, tous ceux et toutes celles qui sont appelés au ministère de prophète sont appelés à exercer le don spirituel de la prophétie. Et il y a une différence essentielle à faire entre les prophéties que nous trouvons dans l'Ancien Testament et le don spirituel de la prophétie que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Ça fait vraiment partie des choses importantes à savoir. C'est que les paroles prophétiques qui sont consignées dans l'Ancien Testament forment aujourd'hui les Écritures. Et donc, elles sont infaillibles. Elles font autorité pour notre foi. Elles y participent. Elles révèlent des choses sur Dieu. Lorsque nous lisons certains textes que nous trouvons dans les Écritures et dans l'Ancien Testament, nous voyons la nature de Dieu qui est décrite. Nous voyons les attributs de Dieu qui sont décrits, sa toute-puissance, son omniscience, des choses comme ça. Nous avons aussi un regard sur le monde spirituel, les questions des êtres célestes, des anges. Mais ce n'est pas le cas du don de l'esprit de la prophétie qui n'a pas pour but d'apporter une révélation d'ordre doctrinal. C'est important de bien faire la différence. Le but de la prophétie est clairement énoncé au verset 3 du chapitre 14. Celui qui prophétise parle aux hommes d'édification, d'exhortation et de consolation. Donc comprenez bien que lorsqu'il est question de révélation, c'est pour ce but-là, édifier, exhorter, consoler. Ce n'est pas pour apporter une révélation qui serait complémentaire de ce que nous trouvons dans la Bible, dans les Écritures. Ça concerne les besoins moraux, les besoins spirituels des croyants, de l'Assemblée. Le don de prophétie vise l'édification des personnes qui composent l'Assemblée, qui composent l'Église. C'est tout le contexte du chapitre 14 de 1 Corinthiens. Donc la prophétie révèle des choses sur la situation morale et spirituelle des hommes, des femmes qui composent l'Assemblée dans le but de les encourager, mais elle ne révèle rien sur les mystères de Dieu et du monde spirituel. Tout cela est contenu dans la Bible, qui est notre seule référence en cette matière. notre seule référence en matière de foi. Ce qui reste mystérieux n'a pas à être révélé par la prophétie. Ça rejoint ce qui est dit dans le livre du Théronome. C'est au chapitre 29, verset 29, « Ce qui est caché est réservé à l'Éternel notre Dieu. Par contre, nous sommes concernés, nous et les générations suivantes, par ce qui a été révélé, par toutes les paroles de cette loi qu'il nous faut appliquer. » Il y a des choses qui nous sont révélées définitivement et qui sont dans les Écritures. Et ce texte-là nous amène à fonder notre foi sur les Écritures, pas sur une prophétie qui serait apportée dans l'Assemblée. Le don spirituel de la prophétie doit donc rester fondé sur la parole, fondé sur les Écritures, fondé sur la doctrine biblique, si on peut appeler les choses comme ça. Et c'est ce que dit Paul lui-même dans la lettre qu'il adresse aux Romains, au chapitre 12, au verset 6. Il parle des dons de l'Esprit, il dit « Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. » La foi désigne ici l'ensemble des doctrines que les croyants sont appelés à accepter par la foi. Le premier sens du mot qui est utilisé, « analogia », qui est traduit par « analogie », c'est « proportion ». Ça veut dire que la prophétie, le message prophétique qui va être partagé avec une personne, avec une assemblée, doit avoir les mêmes proportions que la foi. Voyez ce jeu que l'on donne souvent aux enfants où il y a des carrés, des ronds, des étoiles, c'est pour lui apprendre les formes. Et puis vous savez, il doit mettre le carré dans la forme du carré, l'étoile dans la forme de l'étoile. Et s'il essaye de mettre l'étoile dans la forme du rond, bah ça marche pas. Ou le carré dans la forme de l'étoile, ça marche pas. Il faut que ça coïncide, il faut que l'étoile aille dans la forme de l'étoile et le carré dans la forme du carré. Eh ben, c'est cette idée-là, en fait. Il faut que la prophétie colle, cadre avec ce que nous trouvons dans les Écritures. La prophétie doit avoir les mêmes proportions que la foi. La prophétie ne fait pas autorité en matière de doctrine, mais elle est soumise à la doctrine. C'est pas son rôle de nous apprendre de nouvelles choses sur, je sais pas, le monde spirituel, sur la hiérarchie des anges, quel est le nom du capitaine des archanges, quelle est la stratégie de combat des démons, en quelle matière est fait le trône de Dieu, enfin je sais pas, j'en sais rien, quelle est la couleur du royaume des cieux. je dis ça parce que c'est quelqu'un une fois qui a fait une prophétie comme ça dans une église, un pasteur qui a raconté, il y a une dame qui s'est levée, le royaume de Dieu est bleu. À quoi ça va nous servir? Bon, c'est un peu gros comme exemple. Mais lors d'une assemblée, vous avez un pasteur une fois qui avait prophétisé qu'il y avait 7 personnes divines dans les cieux. 7 personnes divines. Donc vous voyez que là, par rapport à ce que nous dit la parole sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit, 3 c'est déjà pas mal. On n'est plus dans ce que dit la parole. On n'est plus dans ce que on peut comprendre de la parole au niveau doctrinal. Donc ça, c'est un premier point important. Une prophétie est en accord avec les Écritures. Le deuxième point aussi que je voudrais voir, en réalité le troisième point de ce message, c'est que la prophétie est le fruit de la collaboration entre le Saint-Esprit et le croyant. La prophétie révèle que Dieu nous connaît et que Dieu nous parle. Et pour révéler aux hommes, aux femmes, des choses qui les concernent, Dieu va collaborer avec la personne qui va devenir son porte-parole. Et c'est à dessein que j'emploie le mot « collaborer » et non pas « utiliser ». Je me suis d'ailleurs rattrapé au début du message. « Collaborer » et non pas « utiliser ». Parce que si nous étions totalement et complètement utilisés par Dieu, nous serions des éléments passifs pour prophétiser. Or, pour la prophétie, le croyant reste toujours un élément actif. Sa volonté reste en action. Sa conscience reste en action. Et nous trouvons un bel exemple de collaboration entre la personne qui exerce le don et le Saint-Esprit dans le livre des Actes. Lorsque Paul rentre à Jérusalem après son dernier voyage missionnaire, il est plusieurs fois averti au fur et à mesure qu'il s'approche de Jérusalem qu'il allait rencontrer des difficultés lorsqu'il reviendrait dans la ville. On lit ça dans Actes 20. Versets 22-23. Et maintenant, il est en train de parler à ceux qui l'accueillent dans une église. Et il dit, et maintenant, je me rends à Jérusalem enchaîné par l'Esprit et j'ignore ce qui m'y arrivera. Je sais seulement que dans chaque ville, le Saint-Esprit m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. Et il continue son chemin et puis il arrive dans une ville qui s'appelle Tyr, qui est sur la côte au nord du pays d'Israël. Et là, à nouveau, il reçoit des avertissements prophétiques par les chrétiens qui sont dans la ville de Tyr. C'est ce que nous lisons au verset qui est affiché en dessous, chapitre 21, verset 4. « Nous y avons trouvé à Tyr des croyants et nous sommes restés une semaine avec eux. Avertis par l'Esprit, ils disaient à Paul de ne pas se rendre à Jérusalem. » C'est vraiment très intéressant de mettre ces deux versets, ces quelques versets côte à côte. Parce que lorsqu'il arrive à Tyr, il semble logique à ceux qui sont poussés par l'Esprit d'avertir Paul des problèmes qu'il va rencontrer à Jérusalem, il leur semble logique de l'encourager à ne pas aller à Jérusalem. Et pourtant, Paul va quand même aller à Jérusalem parce que il se sent enchaîné par l'Esprit pour y aller. Donc ça veut vraiment dire que même quand nous recevons un message du Saint-Esprit, notre intelligence continue de fonctionner. Notre réflexion continue de fonctionner. Notre interprétation du don spirituel est liée à notre capacité d'analyse, à notre réflexion. L'intelligence n'a pas démissionné. Elle n'a pas disparu. Elle ne s'évanouit pas, elle ne se noie pas dans l'action de l'Esprit en nous. Le Saint-Esprit nous inspire une pensée, mais cette pensée va être exprimée avec nos propres mots. Ça veut dire que nous choisissons les mots que nous allons utiliser. La prophétie n'est pas une dictée, c'est la communication d'une pensée. Et il y a une grande différence avec les pratiques prophétiques qui existaient en dehors de l'Église. Dans l'Antiquité, alors bien sûr, on prophétisait en Israël, mais il y avait aussi des pratiques prophétiques en dehors du judaïsme et du christianisme. Notamment, un des cultes prophétiques où il y avait la présence de la prophétie, c'était le culte en l'honneur d'Apollon, qui était une divinité du panthéon grec. Et dans ce culte-là, le prêtre ou la prêtresse était comme possédé par le Dieu, qui parlait au travers de lui ou d'elle. Et on a un exemple de cela dans le livre des Actes, au chapitre 16, où nous voyons Paul et Silas, qui arrivent dans une ville qui s'appelle Philippe. Et puis, il nous est dit que là, il va y avoir une servante qui a un esprit de Python. Donc, Python, en fait, dans la mythologie grecque, c'était le serpent qui gardait l'oracle du dieu Apollon. Et donc, Apollon, il va tuer Python pour pouvoir prendre possession de l'oracle. Donc, quand il est question de cet esprit de Python, c'est une référence à un culte dans lequel la prophétie était présente. Et c'est ce que fait cette servante, elle prophétise. Et elle n'arrête pas de dire « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent le chemin qui conduit au salut ». Mais bien sûr, c'était pas une prophétie authentique. Donc, elle parlait comme ça chaque jour. On voit que elle est pas maître de ce qu'elle dit parce que elle est soumise à la force d'un mauvais esprit en l'occurrence. Elle peut pas s'arrêter de parler. Et elle ne s'arrête que quand Paul chasse le mauvais esprit. Donc ça, c'est le comportement typique d'une personne qui est utilisée sur le plan spirituel. Et c'est pas le cas de la prophétie chrétienne. Parce que la personne qui prophétise reste maître d'elle-même. Regardez ce que dit Paul dans 1 Corinthiens 14. On va revenir dans 1 Corinthiens 14, versets 29 et 30. On l'a lu tout à l'heure. Quant au prophète, que deux ou trois prennent la parole et que les autres jugent ce qu'ils disent. Si un autre qui est assis reçoit une révélation pendant qu'un autre parle, celui qui a la parole doit se taire. Le prophète est donc capable de s'arrêter. En tout cas, c'est ce que Paul dit. Il dit, il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Pour donner la possibilité, en l'occurrence, à une autre personne de partager un don spirituel. Mais Paul dit bien que la personne qui prophétise ne se laisse pas dominer par l'inspiration. Il est responsable de ce qu'il dit et il est responsable de la manière dont il le dit. Et c'est pour ça, je crois qu'en nous fondant sur ce que dit la parole, il est préférable qu'une prophétie soit courte, une prophétie soit claire, une prophétie soit concise. Verset 32, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. On rejoint cette même pensée. Ce texte-là, alors c'est une formulation un peu particulière qui suscite beaucoup d'interrogations de la part des biblistes, mais on peut le comprendre dans le sens où le prophète reste maître de lui-même. Moi, je me souviens, il y a quelque temps de cela, j'avais rencontré une personne dans l'église où j'étais à l'époque, qui disait que quand elle prophétisait, une fois qu'elle avait arrêté de prophétiser, elle ne se souvenait plus de rien. En fait, c'est comme si le Saint-Esprit l'envahissait, la remplissait, elle disait les mots, et plus elle reprenait conscience avec la réalité. Ben, ça ne cadre pas avec ce que la parole nous dit. Non, nous restons toujours maîtres de nous-mêmes. L'émotion peut être présente sous l'action du Saint-Esprit. Ça peut se comprendre, bien entendu, quand même, on rentre en relation avec une personne divine. Donc l'émotion, elle peut être présente sous l'action du Saint-Esprit. Et la manière dont nous exprimons les choses peut dépendre aussi de notre personnalité, de notre expérience, de notre histoire. Mais puisque nous collaborons avec le Saint-Esprit, il nous revient de gérer cette émotion et de ne pas se laisser entraîner par elle. Parce que la prophétie est le fruit de cette collaboration entre le croyant et le Saint-Esprit, nous sommes aussi appelés à juger ou à discerner le contenu des prophéties. Si nous revenons au verset 29, que deux ou trois prennent la parole et que les autres jugent ce qu'ils disent. Donc s'il n'y avait pas une part à faire du côté des hommes, il n'y aurait pas besoin de juger, puisque il n'y aurait que le Saint-Esprit qui parlerait. Mais Paul dit, non, vous devez scruter, vous devez comprendre, vous devez juger dans le bon sens du terme ce qui est communiqué. Et c'est d'ailleurs pas un hasard, sans doute, que le don du discernement des esprits est cité tout de suite après le don de la prophétie, en 1 Corinthiens 12-10. À l'un, il a été donné le don de prophétie, ouais, 1 Corinthiens 12-10, à un autre, le discernement des esprits. Et après c'est la diversité des langues, l'interprétation des langues. Donc, le fait que ça suive, c'est sans doute pas un hasard, ça peut être compris comme ça. C'est une manière de dire, oui, il y a la prophétie, mais discerner, analyser les choses. Et puis, vous avez aussi cet autre texte qui est bien connu, qu'on trouve en 1 Thessaloniciens 5, c'est le chapitre 5, j'ai oublié, verset 20. « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Là, c'est vraiment, là, ça nous permet de comprendre cet aspect de la collaboration entre l'être humain et puis le Saint-Esprit. Il y a un jugement à exercer. Il y a un tri à faire même quelquefois. Parler au nom du Saint-Esprit ne donne pas une autorité absolue et incontestable. La prophétie peut contenir des éléments qui sont aussi l'expression de nos préoccupations personnelles. Je vais vous donner un autre exemple, mais dans l'église, il y avait une jeune fille qui commençait à exercer le don de prophétie. Et elle partageait des pensées le dimanche matin dans l'assemblée, comme c'est notre pratique, notre façon de faire. Et puis, à chaque fois qu'elle prenait la parole le dimanche matin, c'était pour encourager les chrétiens, les chrétiennes, les croyants à être des témoins. Alors, c'était formulé de manière assez différente. « Vois le monde autour de toi qui ne connaît pas Jésus. » Voilà. Mais à chaque fois, chaque dimanche matin, quand elle élevait la voix, c'était tout le temps, pour encourager à témoigner. Sauf que je savais, parce que j'avais discuté avec elle, que cette chrétienne, elle avait à cœur, mais vraiment c'était ce qui la faisait vibrer, d'annoncer l'évangile. Et en particulier dans les campagnes, parce qu'elle était issue d'un milieu rural, elle voyait que les églises, il y en avait beaucoup dans les villes, mais pas beaucoup dans les campagnes. Et elle avait vraiment une envie de partager l'évangile. Donc, on en a parlé ensemble, j'ai dit, mais tu sais, ce que tu dis, c'est vrai, on est appelé à être des témoins, les uns et les autres. Mais ce que tu es en train de traduire, ce que tu es en train de partager, c'est ta préoccupation, ta préoccupation personnelle. Donc on peut l'entendre, mais le fait que ce soit toujours ce message-là qui soit partagé montre qu'il y a une bonne part de toi dans ce que tu es en train de donner. Là. Mais elle a entendu, et dans les semaines qui ont suivi, la manière dont elle a apporté les messages, ça a évolué, parce qu'elle abordait des sujets qui étaient totalement différents. Donc c'est ça, c'est pour vous dire que prophétiser, ça s'apprend. Je pense que des fois, on a une démarche qui est hyper spiritualiste. Et on se dit, c'est le Saint-Esprit qui communique une pensée, c'est le Saint-Esprit qui parle, donc c'est comme si le Saint-Esprit faisait tout. Sauf que dans la vie chrétienne, comme dans n'importe quel autre aspect de notre vie, nous apprenons les choses. Tout s'apprend. Depuis le début de notre vie jusqu'au bout, normalement, on va apprendre. Il y a des choses que nous ne comprenons pas à 20 ans qu'on va comprendre à 35 ans et d'autres choses qu'on comprendra à 55 ou 60 ans. On apprend tout le temps. Il faut tout le temps apprendre. Et l'exercice du don prophétique, ça s'apprend. Il y a une pratique, il y a une expérience qui vient. Et le dernier point que je voudrais voir avec vous, ce sont les buts de la prophétie. Les buts de la prophétie. À quoi sert la prophétie? Ils sont clairement exprimés dans le verset qu'on a lu tout à l'heure, au chapitre 14 et au verset 3, et on va y revenir. Celui qui prophétise parle aux hommes d'édification, d'exhortation et de consolation. Ces trois mots-là, ils sont presque synonymes. Et pour pouvoir en comprendre les nuances, il faut vraiment aller voir dans le texte original, encore une fois. Et Paul, là, nous parle d'édification. Le but, un des buts de la prophétie, c'est d'édifier. Ça veut dire que la personne ou le groupe de personnes qui est concerné par une prophétie doit être conforté dans sa foi. Ça a été souligné par Laurent, mais quand nous lisons 1 Corinthiens 14, et je vous invite à le refaire, à refaire cette lecture, Paul répète à 7 reprises que la prophétie doit édifier. 7 fois. Et il utilise pour cela soit le mot oikodomé, soit le verbe qui lui correspond, qui est oikodoméo. Et qu'est-ce que ça veut dire? Dans oikodomé, ou oikodoméo, là encore, on va disséquer le mot comme on l'a fait tout à l'heure, vous avez au début oikos. Oikos, en grec, c'est la maison. Et doméo, disons, c'est construire. Donc, littéralement, oikodomé, c'est construire une maison. C'est vraiment le vocabulaire de la construction, celui qu'on utilisait à l'époque sur les chantiers. Vous savez, dans l'évangile, à un moment, il y a un disciple qui interpelle Jésus parce qu'ils sont à Jérusalem, il y a le temple de Jérusalem, et le disciple lui dit « Regarde, maître, quelle grande construction !» Et Jésus dit « Mais de ces constructions, il ne restera pas pierre sur pierre. » Eh bien, c'est le mot « oikodomé » qui est utilisé. Donc, c'est vraiment le mot « construire », « édifier », c'est construire. Donc la prophétie doit contribuer à nous construire spirituellement, à nous élever. Quand on construit une maison, on commence par la base, et après on met les murs, et après on met le toit, etc. Donc on s'élève quand on est construit, quand on est édifié. La prophétie rend la foi plus solide. La prophétie est destinée à nous affermir. Pour construire une maison, et c'est peut-être l'expérience que vous avez faite, faites, si vous avez été sur un projet de construction, d'ailleurs il y en a parmi nous qui connaissent là en ce moment, mais pour construire une maison, il faut un plan. Et il faut que le plan soit clair. Il faut que les mesures soient claires, au centimètre près. Et il faut que le matériel que l'on va utiliser soit solide. Sinon, la maison, elle est mal édifiée. Et la maison, elle est fragile. Et si on ne veille pas à ce que la prophétie édifie, on va avoir ce que j'appelle des prophéties à la numéro bis. Qui connaît numéro bis ? Il a été incarné au cinéma par Jamel Debbouze, mais à la base, c'est un personnage des aventures d'Astérix et Obélix. Moi, j'ai des théologiens que j'apprécie beaucoup, comme Tim Keller, Don Carson, et après, c'est Goscinny et Uderzo. Et dans Astérix et Cléopâtre, vous savez, pour ceux qui connaissent pas, mais je vous invite à lire ce bouquin, c'est super. Et donc, numéro bis, c'est un architecte qui doit relever le défi de construire en 3 mois, je crois, un palais pour Cléopâtre. Sauf que numéro bis, il est nul. Et vous voyez, là, dans la BD, là, vous voyez, Astérix et Obélix sont invités chez lui. Donc, vous voyez la maison, à quoi elle ressemble, la maison de numéro bis? Les colonnes sont de travers, les fenêtres sont de travers. Obligé d'enfoncer la porte pour rentrer. Vous avez eu l'escalier pour monter chez lui, les marches sont comme ça. Ce qui fait que dans la suite de l'histoire, vous avez un autre personnage qui vient, si tu peux mettre après. Et il dévale l'escalier là, bam, il tombe, il se cogne sur la colonne, puis bam, vous avez un bloc qui lui tombe sur la tête. Vous avez idée fixe là en bas qui est en train de renifler la colonne, et simplement de renifler la colonne, brum, toute la maison elle s'écroule. Donc elle n'est pas bien édifiée cette maison. Elle n'est pas bien édifiée. Et une parole prophétique bien fondée et bien apportée peut être une véritable bénédiction. Mais une parole aux accents prophétiques qui n'est en fait que de la morale ou qui condamne peut être une véritable malédiction. Elle peut détruire, elle peut faire chuter, elle peut faire tomber, elle peut faire s'écrouler au lieu de construire et d'édifier. C'est étonnant de voir comment la prophétie peut être un facteur extraordinaire de bénédiction et d'encouragement, mais si elle est mal faite, elle peut avoir le but carrément contraire. Je connaissais une personne qui avait eu une histoire terrible, qui avait beaucoup souffert dans sa vie. Elle reçoit le témoignage de l'Évangile. Elle vient à l'église. Elle entend l'Évangile. Elle reçoit le message. Elle s'approche pour qu'on prie pour elle. Elle commence à fréquenter l'église. Et peut-être, je ne sais pas exactement, peut-être un an ou deux après, il y a quelqu'un qui vient la voir et qui lui donne une parole sur un ton prophétique. Et cette personne-là, elle s'est sentie tellement jugée qu'elle a quitté l'église, alors qu'elle était en cheminement, elle était en train de s'approcher. Et ça a fait comme la personne qui est en train de dévaler les escaliers, là. C'est pas qu'elle a perdu la foi, mais elle a été tellement blessée, tellement touchée dans son cœur, que ça a fait un effet de repoussoir. Sauf que le don spirituel, c'est pas fait pour repousser les gens. C'est fait pour les encourager et pour les attirer. Mais ce don spirituel a été, c'était de la morale, en fait. On lui a dit, voilà, là, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien. Et le Seigneur te dit, tu dois faire autrement. Eh non, je suis désolé. À partir du moment où le résultat du don spirituel, c'est que la personne s'éloigne de l'Église ou qu'elle vienne de l'Église, eh ben, ça tape à côté. Au contraire, le Saint-Esprit, il peut, par une prophétie, faire grandir, édifier, propulser dans la foi. Vous savez, dans l'histoire, numéro 10, il va y arriver. Avec l'aide de Panoramix et d'Astérix et tout ça, mais il va avoir la force pour pouvoir édifier un palais magnifique. Vous voyez, ça, c'est plus beau que sa maison quand même. Eh bien, en réalité, spirituellement, c'est ça que nous devons avoir comme résultat. C'est être construit, c'est être solide, c'est être édifié. Ça, c'est le premier point, l'édification. Deuxième point, c'est l'exhortation. Une personne ou un groupe de personnes concernées par une prophétie doit être encouragée. Le mot « paraclésis » qui est utilisé par Paul, c'est vraiment l'idée d'élever la voix pour s'adresser à quelqu'un, comme quand on encourage, par exemple, quelqu'un qui fait la course, ceux qui ont fait la course des héros, là. Ce qui leur a donné, ce qui les a motivés d'aller jusqu'au bout, c'est justement parce qu'on les a encouragés. Il y a des gens qui étaient là et puis qui leur disaient « Allez, vas-y, continue, va jusqu'au bout ». Et les sportifs, s'ils gagnent, c'est parce qu'on les encourage. S'ils franchissent la ligne d'arrivée ou s'ils gagnent le match, c'est parce que dans les tribunes, il y a des gens qui les supportent. Donc tous ceux qui sont sportifs savent que l'encouragement, c'est essentiel. Et un don spirituel, une prophétie, il faut que ça encourage. De la même manière que vous, pour les sportifs qui sont parmi nous, vous vous sentez encouragé et c'est ça qui va vous permettre d'atteindre votre but, il faut que lorsque nous donnons et partageons une parole prophétique, il y ait cette même dimension d'encouragement. Timothée, dans la Bible, a été au bénéfice de ce type d'encouragement. Parce que à un moment donné, il était confronté à des situations difficiles dans le cadre de son ministère et il a eu besoin d'être encouragé. Et Paul va l'encourager. On lit ça dans 1 Timothée 1:18. « Timothée, mon enfant, je te confie cette recommandation conformément aux prophéties qui ont été prononcées autrefois à ton sujet. Que ces paroles soient ta force dans le bon combat que tu as à livrer en gardant la foi et une bonne conscience. » Paul est en train de dire à Timothée, c'est dur ce que tu es en train de vivre en ce moment. Mais souviens-toi, Dieu t'a parlé. Des prophéties ont été prononcées. Des personnes, des chrétiens, des chrétiennes se sont fait des porte-paroles de Dieu. Et ils t'ont laissé quelque chose. Accroche-toi à ça, accroche-toi à cette parole. La prophétie, elle sert à encourager. Paul lui rappelle les prophéties qu'il avait reçues pour le fortifier et lui redonner l'élan nécessaire au service. Ça a été mon expérience aussi. Lorsque Dieu m'a appelé au ministère, au départ, ça a été un peu compliqué. J'en ai déjà donné quelques mots, je me souviens, un dimanche matin, mais c'était un deuxième culte, j'avais pas raconté forcément au premier culte, mais c'était compliqué. Ce qui fait qu'il s'est passé des années sans que personne tienne compte de mon ministère. Bon, j'en avais parlé et tout, mais ça trouvait pas d'écho favorable. dans les responsables de l'Église à l'époque. Et puis avec Sandrine, on a eu l'occasion d'aller dans une autre église. Le prédicateur, le pasteur qui s'occupait de cette église, connaissait pas ma situation. Et il est venu vers moi. Il a dit, mais tu sais, je connais pas ta situation, mais ce que Dieu t'a appelé, ce que Dieu t'a donné, il y pense toujours. Ce que Dieu t'a donné, il ne te l'a pas retiré. Et moi, j'avais besoin d'entendre ça parce que j'étais en train de faire une croix sur mon appel. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ça se met pas en place. Donc, j'y renonce. Et là, cette parole-là, elle a ranimé. Elle m'a permis de pouvoir patienter jusqu'au moment où le ministère a pu se mettre en place. Une parole prophétique, c'est pour encourager. Et c'est un encouragement qui va permettre de faire un pas de plus, d'aller plus loin. Et enfin, une parole prophétique, c'est pour consoler. Une personne ou un groupe de personnes qui est concerné par une prophétie doit être apaisé, réconforté, soulagé dans la tristesse. Paramoutia, c'est une parole que l'on prononce quand on est proche de quelqu'un. Il y a une idée de tendresse qu'on va pas forcément retrouver dans Paraclésis. Comme celle, tiens, Brigitte, ce qu'elle a partagé avec nous là tout à l'heure au début du culte, c'est tout à fait ça. Celle d'un père qui va mettre son pied à genoux et qui va ouvrir ses bras pour que son enfant se réfugie dans ses bras. Vous avez vraiment cette idée de tendresse. C'est vraiment ça qui est dans le mot paramoutia. Parler à quelqu'un dans la proximité. Et puis, il y a un dernier point aussi, et on va terminer là-dessus. Au verset 24 et 25, l'apôtre Paul évoque la situation des non-chrétiens qui participent à une assemblée. Et il dit, si tous prophétisent et qu'il entre un simple auditeur ou un non-croyant, il sera convaincu de son péché à cause de ce qu'il entend, il sera jugé par tout ce qu'il entend. Et ses pensées secrètes seront mises en pleine lumière. Alors il se courbera le visage contre terre et adorera Dieu en déclarant « Dieu est vraiment parmi vous ». Ce texte-là, ce verset, dit aussi que la prophétie est destinée à convaincre. Une parole prophétique peut saisir un incroyant, parce que cette parole va lui révéler son état intérieur. L'action du Saint-Esprit peut conduire quelqu'un à prendre conscience de la présence de Dieu dans l'assemblée. C'est très clair dans ce que Paul dit là. Mais, et là, Paul dit, et il appelle les Corinthiens à tenir compte des personnes qui débutent dans la foi ou qui n'ont pas encore la foi et qui viennent dans l'Église. Un simple auditeur, le mot qui est utilisé là, c'est ceux qui ne savent pas tout. Donc ce sont les gens qui commencent à savoir ce qu'a fait Jésus, ce qu'est la foi et tout. Et puis, évidemment, il y a le non-croyant qui lui, alors là, il n'est pas du tout dans la foi. Et Paul dit, mais tenez compte de ces gens-là, parce qu'ils viennent dans vos assemblées. Soyez sages dans l'expression de vos dons spirituels, le parler en langue, toutes ces choses-là, la prophétie. Faites en sorte que les dons de l'esprit attirent, mais pas qu'ils repoussent. Parce qu'il le dit, mais si vous ne faites pas attention dans la manière dont vous exprimez, ils vont vous dire, mais ils sont fous ces gens-là. Faites en sorte que les dons de l'esprit atteignent leur but, exhorter, édifier, consoler. Que ce soit vrai pour chacun d'entre nous en tant que croyants, mais que ce soit une réalité, une vérité pour les non-croyants ou ceux qui sont en train de s'approcher dans la foi. L'exercice des dons de l'esprit, ce n'est pas un problème pour nous. Nous, c'est notre culture, c'est notre univers. Mais les dons de l'esprit, ça peut être un problème pour ceux qui ne connaissent rien de la Bible, rien des dons de l'esprit. Nous vivons dans un pays où l'arrière-plan est catholique, où tout ce qui est de la dimension charismatique est très peu répandu. C'est pas la même chose dans les pays protestants, on est un peu plus habitué à cela. Donc quelqu'un, en plus, cet arrière-plan, il est en train de s'effilocher, de disparaître, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez une majorité de personnes qui ont absolument aucun arrière-plan religieux, aucune éducation religieuse. Jésus, Dieu, tout ça. Alors, s'ils arrivent dans une église et puis que vous avez quelqu'un qui parle au nom de Dieu, en plus, alors en France, on est tellement attaché à l'exercice de notre libre arbitre, notre liberté. Donc, s'il y a des consignes qui sont données, vous voyez, il faut qu'on tienne compte de tout cela. Parce que nous pouvons nous édifier les uns les autres, mais il y a aussi cette responsabilité de parler et de partager à ceux qui ne connaissent pas Dieu, à ceux qui sont là. Et c'est jamais un hasard si quelqu'un se retrouve dans une église quand même. C'est qu'à un moment donné, l'esprit les a conduits là. Et ils sont appelés à recevoir quelque chose. Mais notre responsabilité, puisque nous collaborons avec le Saint-Esprit, c'est de faire, mais comment je vais faire pour que ce que je vais partager atteigne ce but de les consoler, de les exhorter, de les édifier, qu'ils puissent vraiment être convaincus de la présence du Saint-Esprit. Se faire le porte-parole de Dieu, c'est une grande responsabilité. Les mots que nous choisissons, le ton que nous employons sont importants et ça doit contribuer tout ça à atteindre ces différents objectifs pour toutes les personnes qui sont dans l'Église. C'est important d'y être attentif parce qu'il y a un enjeu et c'est un enjeu qui peut être crucial pour certaines personnes. Que le Seigneur nous inspire et nous conduise. J'aurais compris ensemble, Tony, si tu veux bien nous accompagner. En nous communiquant ces dons, le Saint-Esprit nous équipe d'une façon extraordinaire. C'est extraordinaire parce que c'est Dieu qui agit au travers d'une parole que nous allons pouvoir partager avec nos frères, avec nos sœurs ou avec les personnes qui viennent pour la première fois dans ce lieu. Nous sommes équipés d'une manière extraordinaire. Nous avons des capacités qui ne sont pas les nôtres. Nous ne pouvons pas lire dans le cœur des gens. Nous ne pouvons pas lire dans les pensées des gens. Mais Dieu sait tout cela. Et il nous utilise pour nous édifier, nous encourager, nous consoler. La prophétie est le souffle qui nous ranime. La prophétie est la brise qui nous apaise. La prophétie est le vent qui nous pousse plus loin. Et par une parole qui est dite à propos, par une parole qui est inspirée par son esprit, Dieu peut nous encourager. Dieu peut nous relever. Alors peut-être qu'on est plus bas que terre. Dieu peut nous solidifier pour nous rendre toujours plus efficaces dans notre vie chrétienne. Dieu peut nous aider à passer des caps importants dans notre vie. Nous pouvons bénéficier de tout cela si nous croyons en l'actualité des dons de l'esprit. Si nous croyons qu'une parole prophétique peut changer les choses, peut nous pousser plus loin. Alors que la prophétie nous édifie. Que la prophétie nous encourage. Que la prophétie nous console. Que la prophétie nous convainque de la présence de Dieu dans son Église. Et je voudrais qu'on élève nos voix ensemble pour cela, pour que nous puissions vraiment vivre ces choses, aspirer aux dons spirituels, aspirer à la prophétie, dit l'apôtre Paul, mais ayons vraiment cette clairvoyance, faisons en sorte que nous puissions exprimer les choses là dans la volonté de Dieu avec équilibre, en conformité avec sa parole. Seigneur, nous regardons à toi parce que lorsque nous voyons toutes ces choses, nous sommes émerveillés. Et nous avons en premier l'envie de te dire, mais merci Seigneur, merci de nous donner la possibilité de vivre toutes ces choses, et notamment de vivre la prophétie, parce qu'au travers des gens qui m'entourent, qui ont la foi, qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, je peux recevoir une parole qui vient de toi. Je peux recevoir une parole qui va m'encourager, je peux recevoir une parole qui va me consoler, je peux recevoir une parole qui va me mener beaucoup plus loin dans mon ministère, dans ma vie, dans mon engagement. Seigneur, merci Seigneur pour ces dons, pour ces cadeaux. Merci parce que tout cela est précieux et nous voulons vraiment être au bénéfice de ces choses. Alors Seigneur, donne-nous de pouvoir vivre ces choses selon là ce que tu nous inspires et selon ce que tu nous conduis. Seigneur, donne-nous de pouvoir avoir ces paroles prophétiques claires, concises. Donne-nous de pouvoir avoir ces paroles prophétiques qui vont faire mouche. Donne-nous d'avoir ces paroles prophétiques qui vont édifier, consoler, exhorter. Donne-nous d'avoir ces paroles prophétiques qui vont convaincre aussi, notamment les nouvelles personnes qui sont au milieu de nous et qui n'ont pas nos codes, qui ne connaissent pas notre culture, Seigneur. Apprends-nous et aide-nous à réfléchir, à voir comment nous pouvons faire, que l'accueil ne soit pas simplement le fait de se tenir sur le pas de la porte, mais que, Seigneur, tout ce que nous faisons dans le cadre de nos assemblées, comme Paul nous y encourage, puisse vraiment, Seigneur, contribuer à ce que chacun soit édifié, quel que soit là où nous en sommes dans la foi, que nous ayons 20 ans de conversion et que nous soyons là pour la première fois. Seigneur, édifie-nous chacun pour notre part et donne-nous d'être responsables les uns des autres, Seigneur. Nous voulons collaborer avec toi efficacement parce que l'exercice de ce don spirituel, c'est le fruit d'une collaboration avec toi, avec ton esprit. Alors donne-nous tout le discernement, donne-nous toute la sagesse, donne-nous l'équilibre dont nous avons besoin lorsque nous exprimons ces dons spirituels. Et Seigneur, si nous te faisons cette prière, c'est parce que nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir, Seigneur Jésus, un plus grand nombre de personnes venir à toi. C'est parce que nous voulons être au bénéfice, Seigneur, de ta grâce et de ta puissance pour aller plus loin dans notre foi, être toujours plus solide et être toujours plus efficace. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Seigneur.